Nous allons reprendre nos travaux avec l'exposé de M. Jean-Luc Heger sur l'équité linguistique.
Merci. Je remercie tout d'abord le professeur Mantovani qui m'a invité et je suis très heureux de pouvoir présenter le plurilinguisme suisse dans cette enceinte prestigieuse. Alors, l'analyse de la dimension linguistique à l'aune de la notion d'équité suscite d'emblée des questions complexes, profondes et voire dérangeantes. Nous admettons facilement, n'est-ce pas, a priori pour le moins, que les différentes langues humaines, existantes ou mortes, ont la même dignité et méritent le même respect. Nous regrettons d'ailleurs, lorsqu'on nous apprend qu'une langue, si rare soit-elle, vient de disparaître. Pourtant, nous savons que toutes n'ont pas les mêmes droits, et nous nous en accommodons tant bien que mal. La pluralité des langues, d'autre part, nous dérange par certains aspects. Depuis la nuit des temps, elle est associée à la confusion et à l'incompréhension. C'est pour cela que nous essayons constamment de dépasser cette multiplicité dans une unité commune, une unité qui peut assumer plusieurs formes. La langue primordiale unique, perdue après Babel, la langue parfaite recherchée au cours des siècles passés par des multiples savants, la langue pure de la fin des temps imaginée par Walter Benjamin, ou encore la langue globale pratiquée aujourd'hui par des milliards de personnes. Je n'ai d'ailleurs pas besoin de vous préciser de quelle langue il s'agit. Une telle tendance vers l'unité est une constante de l'histoire de l'humanité, à laquelle la gestion du plurilinguisme n'échappe pas. En Suisse, pays plurilingue depuis longtemps, et qui a fait même de sa diversité linguistique et culturelle un de ses éléments constitutifs, cette reductio ad unum laisse des traces bien visibles encore aujourd'hui, notamment lorsque des choix importants s'imposent en matière d'enseignement, d'attribution de marchés publics, de procédures judiciaires, de publications officielles, pour ne citer que quelques exemples. Mais n'ayez crainte, ce n'est pas mon intention ici de réécrire l'histoire des langues dans le monde. Dans cet exposé, je voudrais simplement vous parler du plurilinguisme institutionnel suisse et montrer en particulier de quelle manière une approche équitable de cette réalité juridique institutionnelle est susceptible de transformer, par une sorte de déconstruction vertueuse, la notion d'équivalence et peut avoir, à un niveau plus concret, des implications tangibles sur l'interaction fructueuse entre plusieurs langues. On verra, par ailleurs, que le principe d'équité nous oblige, d'une certaine manière, à reconsidérer et peut-être même à redéfinir certaines notions centrales en matière de plurilinguisme, comme par exemple celle de traduction ou celle d'autorité textuelle. Mais on pourra constater aussi que la tension que je viens d'évoquer entre l'unité et la pluralité accompagne en trame de fond tout discours sur la coexistence équitable de plusieurs langues. Alors, si l'on examine les dispositions du droit fédéral qui règlent le rapport entre les langues officielles, on s'aperçoit que l'on se trouve face à ce que l'on pourrait appeler un régime d'équivalence. Le droit fédéral, en effet, ne connaît pas la notion de minorité linguistique, car il attribue aux trois langues officielles une valeur équivalente. Vous me pardonnerez de laisser de côté dans mon exposé la question de la langue romanche. Alors, quelques exemples. L'article 70 de la Constitution, les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. La loi sur les langues souligne pour sa part l'importance constitutive pour la Confédération suisse du plurilinguisme. Vous voyez à l'article 2, par la présente loi, la Confédération vise à renforcer le quadrilinguisme qui caractérise la Suisse, à consolider la cohésion nationale, à encourager le plurilinguisme individuel et institutionnel dans la pratique des langues nationales. Il y en a après un article 3. Dans l'accomplissement de ces tâches, la Confédération respecte en particulier les principes suivants. Elle veille à accorder un traitement identique aux quatre langues nationales. Elle garantit la liberté des langues dans tous les domaines de l'activité de l'État. Il s'agit là, je le concède, de dispositions basilaires et fondamentales qui énoncent les principes qui régissent l'organisation et le fonctionnement de l'État. Il est toutefois vrai que l'on se meut ici à un niveau plutôt abstrait. Or, cette même équivalence caractérise aussi des aspects plus concrets. Dans un secteur crucial pour un état de droit comme celui des contenus et de la forme des organes officiels de publication, le régime actuel garantit aussi l'équivalence des différentes versions linguistiques des textes officiels. La loi sur les publications officielles que vous voyez établit non seulement l'équipollence absolue des différentes versions linguistiques des textes législatifs, mais aussi leur publication simultanée, avec tout ce que cette exigence implique, n'est-ce pas ? Pour résumer le contenu principal de ces dispositions, on peut affirmer qu'en Suisse, pour le moins au niveau fédéral, plusieurs langues ont le statut de langue officielle et de plus, le quadrilinguisme est défini comme élément essentiel, même constitutif, de la théorie de l'État suisse. Deuxièmement, la loi garantit la parité de traitement des langues officielles et leur équivalence, non seulement en principe, mais concrètement, s'agissant par exemple des publications officielles. Mais on peut se demander quand même que signifie exactement être équivalent pour différentes langues officielles. Si être équivalent signifie avoir une certaine unité, être un, ou du moins tendre vers l'unité, cette question nous rappelle l'une des thématiques les plus classiques et les plus discutées de la spéculation philosophique occidentale, à savoir le rapport entre l'un et le multiple. Et nous verrons qu'en réalité, la spéculation philosophique médiévale peut peut-être nous aider à y voir un peu plus clair dans la notion d'équivalence. Car l'équivalence postulée par le droit fédéral doit composer avec la réalité. Et s'agissant, par exemple, de la langue italienne, la réalité est caractérisée par deux éléments dont on ne saurait minimiser l'importance. Tout d'abord, une présence très modeste de locuteurs effectifs. Je vous rappelle que le pourcentage d'italophones dans l'administration fédérale est autour de 6% environ. Dès lors, très peu de textes, pour ne pas dire presque aucun, naissent en langue italienne. Et de l'autre côté, une pleine équivalence formelle aux autres langues officielles établies par la loi. Il y a donc, pour ce qui concerne les textes officiels, une nette disparité généalogique, donc dans la genèse des textes, mais qui est associée paradoxalement à une parité forte et formelle des résultats. Depuis longtemps, la Confédération a fait face à cette situation par le biais de la traduction. Toutefois, l'on peut facilement comprendre que si de fait l'italien au niveau fédéral existe grâce à la traduction, formellement cette identité traductive n'est pas reconnue. Les textes italiens sont textes originaux comme les autres textes allemands et français. Ce sont donc des traductions qui se nient elles-mêmes en tant que traductions. Or, aristotéliciens ou cartésiens que nous sommes, nous n'aimons pas par-dessus tout les contradictions. C'est pour cette raison que, pour dépasser cette contradiction, l'on se sert du concept de traduction équivalente, ce qui nous oblige, après coup, à clarifier le concept d'équivalence appliqué à la traduction. Alors, s'agissant des textes écrits dans différentes versions linguistiques, il est normalement usuel de caractériser leur équivalence par les traits suivants. Dans un texte original, les deux traductions équivalentes à l'original. Le contenu de la disposition est exprimé authentiquement seulement par le texte original et reproduit de façon spéculaire dans les autres versions. Les différences de formulation par rapport à la formulation originale sont des erreurs. Dans ce paradigme, qui est, vous le comprenez bien, inspiré par la dimension génétique évoquée tout à l'heure, et qui découle aussi d'une certaine idée de la traduction, Les textes sont certes équivalents, mais on peut se poser la question, le sont-ils vraiment? Ou en d'autres termes, est-ce qu'un tel paradigme est réellement équitable? Il est en tout cas compatible et même conforme avec les dispositions législatives ou constitutionnelles que nous avons citées. Il est donc juridiquement correct. Mais l'on mesurera peut-être plus aisément la signification exacte de cette idée d'équivalence en mettant en évidence certaines de ses conséquences, qui sont, soit dit en passant, qui font parfois, hélas, partie de l'expérience générale de la vie dans un contexte plurilingue. Alors, il y a trois conséquences. On dit, par exemple, que le trilinguisme officiel complique la législation, crée de la confusion, car il diffracte un contenu exprimé parfaitement dans une pluralité de copies approximatives. Autre reproche, dans la traduction, l'on perd de l'information. Et enfin, l'équipollence est une fiction juridique. En cas de divergence, il faut se référer au texte original. L'on s'aperçoit que dans ce modèle, la mesure de l'équivalence est l'adéquation plus ou moins fidèle à un original et à un seul. Il n'y a en définitive qu'un seul texte qui exerce une autorité verticale sur les autres, lesquels sont situés à un niveau inférieur. L'original est l'unique critère pour évaluer la justesse des autres versions. Et celles-ci sont d'autant plus équivalentes qu'elles imitent correctement l'original. On pourrait aussi dire que dans cette perspective, l'anisomorphisme des langues, on retrouve le mot iso, pas dont on a parlé hier, l'anisomorphisme des langues n'est pas un indice de richesse du langage, mais plutôt une pathologie. Du reste, comment parler d'équivalence lorsque l'on sait qu'un même sens change selon les paroles qu'il exprime, disait Pascal, et que, comme le soutenait encore plus fermement Merleau-Ponty, peut-être même dans ces salles, la parole et la pensée sont enveloppées l'une dans l'autre, et le sens est pris dans la parole. Ce modèle a dans le passé caractérisé la perception et la gestion du plurilinguisme helvétique et perdure parfois encore aujourd'hui auprès de certaines instances et personnes. Il est encore largement répandu en droit international, par exemple, où les instruments rédigés en plusieurs versions équivalentes connaissent toutefois toujours une version qui prime en cas de divergence. Donc, connaissent une version qui est plus équivalente que les autres, n'est-ce pas? Vous avez ici un exemple d'une clause finale faite en deux exemplaires à La Haye, 12 juin 19, en langue néerlandaise, française et anglaise, chaque texte faisant également foi. Mais, on précise, en cas d'interprétation divergente entre le texte néerlandais et le texte français, le texte anglais fera foi. Donc, il est de manière plus équivalent que les autres. C'est aussi un modèle qui rappelle étrangement le paradigme œnologique des philosophies de l'un, avec tout de même une différence de taille. Dans ses constructions spéculatives, le principe y était transcendant, tandis qu'ici, l'on attribue à une version linguistique, qui a formellement le même rang que les autres, un statut supérieur, le statut de cause formelle et finale. Il existe pourtant une autre manière de penser l'équivalence. Mais pour y parvenir, j'aimerais vous inviter à faire un petit détour historique et rappeler brièvement les thèses formulées par le théologien et philosophe Nicolas de Cuse au XVe siècle. Dans sa spéculation, le cardinal a proposé différentes figures conceptuelles pour illustrer le rapport entre l'un infini, ineffable, et les multiples façons de l'exprimer. Dans son œuvre majeure, qui est la Docte Ignorance, il postule notamment une distance infinie entre l'un et les catégories qui tentent de l'exprimer. Je lis ce bref passage. « Tous ces noms sont l'explication du nom unique et ineffable qui les complique, et comme ce nom propre est infini, il complique un nombre infini de noms qui désignent des perfections particulières. » C'est pourquoi les explications de ces noms peuvent être nombreuses, mais jamais ils ne seront aussi nombreux et aussi grands qu'ils ne puissent l'être davantage. Chacun d'entre eux se rapporte au nom propre et ineffable, comme le fini à l'infini. Vous comprenez bien que si le rapport entre l'un et les noms qu'il exprime est infini, on peut dire que les noms, que ces noms se trouvent tous à une même distance de leur référent, au point de former un cercle. De là, on a l'idée du cousin de la théologie circulaire. Chaque discours sur Dieu, chaque théologie, est une théologie circulaire, car chaque catégorie, même dans sa différence, dit au fond la même chose. Je lis encore de la docte ignorance. J'invite seulement à noter ceci. Comment toute théologie est circulaire est fondée sur un cercle, de telle manière que les noms des attributs se vérifient en se prédiquant de l'un à l'autre, circulairement. De se indicem verificentur circulariter. Comme par exemple, quand on dit la justice suprême est la vérité suprême, la vérité parfaite est la justice parfaite, et de même pour tous. On peut dire, je vais très vite, vous m'excuserez, que la figure spéculative du cercle proposée par Nicolas de Cuse met en évidence deux aspects. L'équidistance de toutes les catégories finies, subordonnées au principe de non-contradiction, par rapport à l'un. Et, d'un autre côté, l'équivalence absolue des catégories posées en cercle, c'est-à-dire leur autorité réciproque. Ce paradigme circulaire nous fournit en quelque sorte l'outillage conceptuel pour penser un autre modèle d'équivalence que, par opposition au modèle précédent, on pourrait appeler équivalence absolue, et qui pourrait présenter les caractères suivants. Trois textes originaux, aucun texte n'est plus original que les autres. Chaque version linguistique exprime authentiquement le même contenu, conformément aux possibilités de chaque langue. Chaque version linguistique est en réalité une traduction du référent. Les différentes formulations reflètent l'approche différente de chaque langue. Le trilinguisme officiel est une opportunité car il multiplie les perspectives d'approche à un contenu qui n'est jamais parfaitement exprimable. La traduction augmente l'information. Et enfin, l'équipollence est absolue. En cas de divergence, chaque version fait autorité et peut servir d'original pour interpréter les autres versions. Alors, si on met côte à côte les deux paradigmes, on voit mieux leur différence, on peut constater que les deux modèles décrivent une situation d'équivalence. Et même, on peut dire, les deux paradigmes sont parfaitement compatibles avec les dispositions législatives que l'on a citées. Dans l'équivalence relative, on a un seul texte, l'original, qui exerce son autorité sur les deux autres, lesquels semblent n'avoir d'autre but que de s'en approcher le plus possible, d'y être fidèle, n'est-ce pas ? L'original est la mesure pour évaluer l'exactitude des autres versions. Et celles-ci sont autant plus équivalentes qu'elles imitent l'original. Dans l'équivalence absolue, par contre, chaque texte fait autorité, car l'on présuppose une équidistance, ou plutôt une distance équitable, entre le référent et toutes les versions linguistiques. Chaque version linguistique, aussi l'original, est une traduction. Il n'y a donc pas d'autorité qui s'exerce verticalement d'une version sur les autres, mais plutôt plusieurs autorités qui s'exercent réciproquement, in vicem, de toutes les versions sur les autres. Les différentes versions linguistiques sont posées comme en cercle autour d'un contenu, qu'aucune version n'arrive à exprimer parfaitement, ou en d'autres termes, les différentes versions sont posées en cercle autour d'un même contenu que chacune d'elles exprime d'une façon différente, mais qui est une façon adéquate, pour n'étant pas pourtant une façon précise. J'aimerais insister encore sur la notion d'autorité réciproque, car nous la retrouverons encore plus en avant. Dans un essai longtemps oublié, mais qui mérite, à mon avis, encore aujourd'hui toute notre attention, Alexandre Kojève, proposait une définition que je trouve captivante de l'autorité. L'autorité, disait-il, est la possibilité qu'a un agent d'agir sur les autres ou sur un autre sans que ces autres réagissent sur lui tout en étant capable de le faire. Ou bien encore, en agissant avec autorité, l'agent peut changer le donné humain extérieur sans subir de contre-coup, c'est-à-dire sans changer lui-même en fonction de son action. Il y a dans l'autorité, dans son acception la plus noble, l'exercice d'une influence qui se fait presque spontanément, librement, de par la force de la reconnaissance et de la connaissance. Or, si nous transposons cette définition au rapport entre les langues, nous pouvons, en rappelant ce que nous venons de dire, distinguer d'un côté un rapport d'autorité verticale entre une version et les autres subordonnées, et de l'autre côté, un rapport d'autorité horizontale entre les différentes versions linguistiques situées toutes au même niveau. Dans un rapport d'autorité verticale, la langue originale existe et, ipso facto, elle conditionne les autres en fonction qui s'adapte dans le processus de traduction. C'est exactement ce qui arrive dans le paradigme de l'équivalence relative. Par contre, dans un rapport d'autorité réciproque et horizontale, chaque langue a la possibilité, l'autorité, disons, d'agir sur les autres, sans changer elle-même, en exerçant tout simplement son pouvoir sémantique, la seule contrainte étant ici l'évidence. Nous verrons plus loin ce que cela peut signifier concrètement, mais d'ores et déjà, j'aimerais attirer votre attention sur la nature particulière de ce rapport d'autorité réciproque, qui devrait en soi théoriquement informer chaque situation réelle ou réellement plurilingue, c'est-à-dire la capacité d'une langue d'agir sur les autres de par sa propre articulation, en ayant bien à l'esprit, toujours, que l'action dont il est ici question est cette forme extrêmement raffinée et attentive d'écoute qui est la traduction. Traduire, c'est l'école du respect, disait Yves Bonfoy. Mais c'est le respect vers ce qui, justement, pour reprendre les paroles de Kojève, exerce son autorité sans qu'il ait à changer ou entreprendre quoi que ce soit. Maintenant, en gardant à l'esprit ces éléments théoriques, j'aimerais montrer maintenant de quelle manière, au niveau fédéral, on assure, ou pour le moins on essaye d'assurer, une gestion du plurilinguisme institutionnel axée sur le paradigme de l'équivalence absolue, à l'avantage d'une des langues officielles, c'est-à-dire l'italien. Nous verrons que l'actualisation pratique de ces principes d'équité requiert à la fois des garanties procédurales, que je vous ai exposées ici, et aussi une approche particulière des textes de la part des traducteurs. Alors, il y a trois garanties procédurales, la traduction en tant que processus circulaire, la commission parlementaire de rédaction et la centralisation de la rédaction italienne. La traduction, je viens de le souligner avec les mots de Yves Bonfoy, est l'école du respect. Mais il faut aussi admettre qu'elle ne l'a pas toujours été, car elle recèle en soi aussi de grands potentiels de violence. Et les violences, en particulier lorsqu'elle est à sens unique, et elle ne vise qu'à transposer une seule logique dominante dans les autres systèmes linguistiques. Dans une telle configuration, il y a en réalité une seule langue qui parle à travers les formulations des autres idiomes. Un dessinateur suisse avait, il y a quelque temps, donné une représentation un peu caricaturale, mais je trouve assez éloquente d'une telle situation. Si par contre nous tenons compte de la nature processuelle de la genèse des textes, en particulier des textes de loi, nous pouvons faire de la traduction un moment privilégié d'analyse interlinguistique des textes et lui faire assumer un rôle de premier plan dans la garantie de la qualité d'une rédaction officielle trilingue, et cela dans une double perspective. En premier lieu, en faisant bénéficier les différents textes des apports résultant des réactions et observations de certains de ses destinataires ou de l'examen de la part d'autres spécialistes. Si nous considérons la procédure législative normale nous nous apercevons qu'avant d'être adoptée, une loi connaît différentes versions provisoires. On a un avant-projet, projet du gouvernement, les dépliants qui enregistrent les amendements parlementaires, et puis le projet pour la votation finale pour l'adoption de la loi. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails de toutes ces étapes, mais ce qui est important, dans chacune de ces phases, les textes subissent des modifications matérielles dues aux options politiques et aux débats parlementaires. Mais chacune de ces phases est aussi une occasion pour repenser, reconsidérer certains choix linguistiques et formulations, que ce soit sur la base des observations des institutions, donc principalement des cantons, d'un député, ou bien tout simplement parce que la relecture du texte met en évidence des incohérences ou des problématiques restées jusqu'alors ignorées. En ce sens, l'élaboration des différentes versions linguistiques peut être considérée comme une sorte d'avancement par ajustement successif, un approfondissement et un perfectionnement progressif. Mais, et nous voici à la deuxième perspective, cette nature processuelle de l'élaboration des textes présente aussi l'avantage, ou disons la valeur ajoutée, de pouvoir avoir une incidence sur les textes génétiquement originaux. Comme vous le savez, la traduction est un banc d'essai implacable pour vérifier la consistance d'un texte. Eh bien, en utilisant d'un côté la nature plastique non définitive du texte de base en raison de la progression de la procédure législative et de l'autre côté l'examen en profondeur imposé par la traduction, aussi le texte initial peut bénéficier d'un perfectionnement progressif grâce à la traduction. Donc, grâce à la traduction, se crée une sorte de rapport de causalité circulaire selon lequel l'effet, c'est-à-dire la traduction, rétroagit sur la cause, c'est-à-dire le texte original, laquelle, à son tour, rétroagit sur l'effet. Sans vouloir trop emphatiser cet aspect, je crois que le fait de reconnaître à la traduction une incidence sur le texte initial signifie en premier lieu lui reconnaître la juste dignité d'activité rédactionnelle à part entière. Mais cela signifie aussi bénéficier de l'immense potentiel du plurilinguisme institutionnel dans l'optique d'un perfectionnement qualitatif des textes, soit-il normatif ou pas. La deuxième garantie procédurale réside dans la prédisposition au sein du processus législatif d'une phase particulière dédiée spécifiquement aux exigences rédactionnelles et légistiques, c'est-à-dire l'institution d'un moment processuel consacré à l'examen rédactionnel des textes et à la comparaison interlinguistique des versions. Je vous assure qu'il ne va pas de soi que parallèlement au travail de traduction et de rédaction qui a lieu tout au long du cheminement procédural d'un texte normatif, soit prévue une phase exclusivement destinée à comparer les textes dans un gremium collégial au sein duquel chaque version linguistique a la même autorité. C'est-à-dire, selon ce qu'on a vu auparavant, une phase dans laquelle chaque version linguistique peut mouvoir les autres versions. La commission parlementaire de rédaction, composée de 3 sous-commissions, une par langue officielle, est chargée, comme vous le voyez dans cet article de la loi sur le Parlement, d'examiner et préparer les textes législatifs sous l'angle formel de la clarté du libellé et de l'équivalence des 3 versions pour le vote final. Cela signifie concrètement qu'avant d'être adopté par le législateur, chaque acte normatif soumis au référendum est examiné par une commission composée de députés de l'Assemblée fédérale. Je dirais qu'au-delà de l'examen spécifique effectué par la commission et au-delà des travaux préparatoires des secrétariats de sous-commission, cette phase procédurale est importante pour 3 raisons principales. Tout d'abord pour son existence même, car elle fait de la qualité rédactionnelle et de la comparaison interlinguistique une exigence procédurale du processus législatif. Et de ce fait, elle inscrit en quelque sorte dans l'identité elle-même de l'acte législatif la dimension plurilingue, parce que, comme vous le savez, la définition de la loi coïncide d'une certaine manière avec la procédure de son adoption. Et enfin, parce que de cette façon, chaque langue et mis sur un pied d'égalité avec les autres, aussi sous l'angle procédural. Une dernière garantie procédurale est la centralisation de la responsabilité des textes officiels publiés dans les deux principaux organes de publication, la feuille fédérale et le recueil officiel des lois, dans un seul service. Je vous rappelle à ce propos la disposition que vous voyez projetée de l'ordonnance qui régit les procédures et les compétences des services linguistiques de l'administration fédérale, qui dit « L'unité de la chancellerie qui fournit les prestations linguistiques en italien est responsable de la version italienne des textes publiés dans le recueil officiel et dans la feuille fédérale. » Vous me direz, mais c'est tout à fait normal que l'unité administrative qui fournit les prestations linguistiques en italien assume une telle responsabilité. Pas tout à fait. Il faut savoir que pour ce qui a trait aux textes publiés dans les mêmes organes, la responsabilité pour les versions allemandes et françaises incombe aux offices, c'est-à-dire aux ministères. Ce sont les offices qui donnent les bons à tirer pour les textes dans ces deux langues et qui décident en définitive leur contenu. Eh bien, contrairement à ce qui est prévu justement pour les autres deux langues officielles, la compétence pour la version italienne est centralisée auprès de la chancellerie fédérale. Il y a donc un déséquilibre dans la structure organisationnelle, une sorte de disparité qui est justifiée justement pour des raisons d'équité. Elle vise notamment à remédier aux anomalies suivantes. Tout d'abord, le manque de spécialistes et de juristes de langue italienne dans les offices. Il y a des préoccupations d'efficience et de coordination, parce que le fait de pouvoir suivre un texte dans l'ensemble de la procédure législative est un grand avantage. Et enfin, il y a aussi la préoccupation de maintenir les compétences linguistiques dans un contexte à l'oglotte, qui est celui de la capitale Berne, où l'on parle allemand, pour éviter effectivement l'isolement des traducteurs dans les offices. Donc, pour résumer, les trois instruments institutionnels que l'on vient de décrire agissent sur des plans différents, sur la traduction, sur la procédure législative et sur la structure des organes étatiques. Ils redéfinissent certaines notions comme celle de traduction et créent dans un certain sens une sorte de déséquilibre dans l'organisation des unités administratives. En fait, ils ne visent qu'une seule chose, c'est-à-dire une présence équitable des trois langues officielles. Ou par présence équitable, il faut entendre justement une même autorité textuelle. De sorte que si je devais vous proposer une définition de l'équité linguistique dans le domaine institutionnel, je dirais que c'est la situation qui permet à chaque langue d'exercer de par elle-même l'autorité sur toutes les autres. Lors de l'élaboration du Code civil suisse, il y a désormais plus de 100 ans, la commission de rédaction chargée d'apprêter le texte définitif dans les trois langues résumait son travail justement en termes d'influence réciproque des textes, d'égale autorité textuelle. Elle écrivait dans son rapport « D'autre part, nous espérons n'avoir rien négligé pour que la concordance entre les trois textes soit établie. Pour atteindre ce but, nous avons dû souvent adapter le texte allemand au texte français ou italien, si bien qu'aucun des textes ne saurait être envisagé comme une simple traduction. Je dois dire que le résultat de cette pondération progressive des différentes autorités textuelles est parfois la présence de dispositions formellement différentes, car expression chacune du génie de chaque langue. Alors je vous montre ici un exemple d'un article du Code de procédure pénale où vous voyez en allemand et en français, on a une perspective presque chronologique ou narrative. Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de la ligne 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve. C'est une formulation d'une norme qui peut être très bien exprimée d'une façon plus concise et d'une façon plus, disons, épistémique ou bien déontique, comme on a fait dans la version allemande, italienne, le prove raccolte esclusivamente grazie a prove non utilizzabili, secondo il capoverso 2, non possono essere utilizzate. Où on a une différente formulation, mais d'un contenu matériel qui est exactement le même. Il s'agit là, vous comprendrez, pour un juge, d'une arme herméneutique unique. Mais en plus, je trouve qu'il s'en dégage une indubitable richesse et aussi une certaine beauté à entendre comme la proportion existante entre une multiplicité d'éléments divers. Et c'est là, pour conclure, cela n'est pas étonnant, car si l'on sait que certains artistes ont établi un lien très fort entre le beau et l'équité. Constantin Brancusi disait « Le beau n'est pas autre chose que l'équité absolue ». Je vous remercie.
Merci de cet exposé qui fait regretter les Français de ne pas être un État plurilinguiste, parce que ça ferait du bien à la rédaction des textes, souvent.